Radio Silence, bonjour. Je suis à Yaoundé où la campagne présidentielle camerounaise est vraiment entrée dans le vif du sujet parce que le lancement officiel c'est lundi de la semaine prochaine et donc depuis que les candidats sont sur le chemin, sur le terrain, ils ont pris comme ça. Comment on va dire, le pouls de la campagne et de la passion populaire qu'on ressent beaucoup plus dans les réseaux sociaux, malheureusement, que sur le terrain comme ça, où les gens sont quand même pris par les préoccupations de la vie quotidienne qui sont très, très pressantes. C'est que, voilà, les fins de mandat sont toujours assez dramatique parce que les gens voient plus ce qui n'a pas été fait que ce qui a été fait, puisqu'ils mesurent cela à l'aune de leurs restrictions budgétaires, de leurs difficultés à trouver du travail, un emploi et à se projeter vers l'avenir. C'est un moment assez, tragique. Mais c'est un peu une tragicomédie qui se joue ici, puisque d'un côté vous avez cet engouement hein, qui est réel dans les équipes de campagne, et de l'autre vous avez quand même le malaise hein, social qui est là, très très fort, et qui vous interpelle. Qui interpelle de quelle façon? D'abord il y a la question... comme ça, qui a émergé très fort, qui est la jeunesse, les revendications de la jeunesse. Normal, dans toutes les sociétés, la jeunesse est supposée être ce qu'on appelle l'avenir. C'est elle qui devrait, en principe, enfin c'est sur elle que devraient se construire les projets d'avenir. Dit comme cela, c'est facile, mais dans la pratique, c'est un peu... sinueux comme cheminement, puisque les jeunes y raisonnent de façon exclusive, ce qui est dommage parce que la société n'est pas faite que de jeunes. Et la société ne peut pas se penser à partir de la jeunesse qui a besoin de se former, puisqu'elle est justement en formation et c'est pour cela qu'elle est jeune. Il ne peut pas prétendre avoir la vision nécessaire pour construire un projet global. Bien sûr, il faut du sang neuf, mais je remarque qu'une chose était de dire qu'il faut tenir compte de la jeunesse, et une autre est d'installer la jeunesse comme paradigme électoral qui autour duquel, enfin paradigme central, noyau dur autour duquel tout le reste va s'agréger un peu comme une forme de je vais y voir une pétale de, comme ça, de fleurs avec le noyau dur qui serait la jeunesse. On est un peu sur cette dérive-là en ce moment. Alors les vieux, fermez vos gueules, c'est exclusion. Les moins vieux, pareil. Et ça, c'est pas bon, ça peut pas marcher du tout. Et on voit très bien que l'engouement de départ est en train de s'essouffler, parce que oui, c'est pas suffisant de dire la jeunesse va construire le projet. Puisque pendant que la jeunesse crie qu'il faut le renouveau, qui c'est qui réfléchit, qui c'est qui dessine les grandes lignes? C'est vraiment les moins vieux et peut-être ce qu'ils appellent les vieux. Ça veut dire qu'il y a quand même tout ce travail de l'éducation qu'il faut faire, de la formation de la jeunesse qui a toujours été fait. Et il faut donc éviter une récupération trop facile comme ça d'aller jouer les réseaux sociaux et de penser qu'à force de tapage social, n'est-ce pas, on va capter toute l'attention et gagner les élections comme cela, presque, je vais pas dire de façon indécente, mais on n'est pas loin de cela. C'est pas ce que la jeunesse cherche, je sais, mais c'est ce que c'est l'impression que ça donne et c'est le sentiment qu'on a qui est très fort. Là-dessus, ça c'était le premier point. Donc on a un candidat qui le représente très très fort, qui s'appelle Cabral Libi. On verra si la force du réseau social est comparable à celle du terrain. Bien sûr, le candidat, et là il faut lui rendre quand même justice, parce que M. François Soudan, il paraît, a dit que c'était un candidat fictif parce qu'il n'existait que sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas. Il fait beaucoup de terrain. Il a toujours fait beaucoup de terrain. C'est sa force. Il fait un grand meeting dimanche prochain à Douala. C'est sa force. Dire comme cela qu'il est un candidat fictif, c'est excessif, d'autant plus que les télévisions françaises, enfin une télévision française, un média Jeune Afrique, et aux États-Unis là-bas, il a été reçu. Donc c'est pas un candidat fictif, loin de là, c'est un candidat comme tous les autres, il est bien réel, il est pragmatique, faut pas non plus dire aussi n'importe quoi. Bon, après, quel est le bon baromètre? Est-ce que ça sera les réseaux sociaux ou alors le terrain, le tout terrain du coup sur lequel jouent les deux autres, alors pas les challengers, les poids lourds que sont Monsieur Kamto et le président Paul Biya, qui ne s'est pas encore manifesté de tout son poids institutionnel, qui va probablement changer beaucoup de choses. Et on voit très bien que ces lieutenants font très bien le travail et ils récoltent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, si bien que si on regarde à la cagnotte, aux cagnottes visibles, hein, parce qu'on ne connaît pas très bien la cagnotte de tous les concurrents, on voit très bien que le RDPC du président en place lève des fonds phénoménaux qui donnent le tournis et qui montrent très bien qu'il y a une adhésion très 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 forte à la personne du président, plus à sa personne qu'à son bilan. Et la question de la personnalité n'a pas été abordée dans ce débat jusqu'à présent. Alors, si on considère donc cette question de la personnalité qui va de plus en plus, maintenant qu'on rentre là sur les deux dernières semaines, ou plutôt dans les deux dernières semaines, cette question de la personnalité va prendre de plus en plus d'importance. On connaît maintenant tous les candidats par leur nom, par leur physique, un tel, c'est un tel, on peut mettre un nom sur les visages. Mais après, maintenant, il va se jouer quelque chose de plus immatériel, qui est la confiance qu'on dégage, qui est le charisme, où on le trouve cela, comment on le reflète, comment on le renvoie. Et au jeu du charisme, c'est là où le président sortant a toujours un avantage sur les autres, c'est évident. Et les 9 autres opposants, on verra celui qui va émerger avec un charisme fort. Mais moi, je vois très bien M. Kamto, je continue à le dire. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas particulièrement. Je découvre, je l'ai vu, je l'ai entendu d'abord et puis je l'ai vu. Ce qui émerge aussi de lui, c'est comme ça, beaucoup de détermination et de volonté. Donc ça aussi, ça va jouer. Oui, ça fait un peu quelqu'un qui a un ego, mais comme il a dit, si vous n'avez pas... Pour avoir envie de gagner, il faut qu'il y ait de l'ego. D'abord, tout projet suppose qu'il y ait un ego derrière, sinon vous n'y allez pas. Donc il est très déterminé, il a plus de volonté que tous les autres, il a plus d'envie de gagner que les autres, ça se voit, il est plus au combat. Et sa personnalité, compte tenu de son expérience antérieure, peut faire une grosse différence. Maintenant, question personnalité, je ne vais pas parler de tous les candidats parce que les autres, plus la course avance, plus l'écrétage se fait, ou l'écrémage, je ne sais plus comment on dit, se fait tout seul. Il y a des candidats, il y a M. Akiré Mouna, un grand avocat international qui est là. Il y a monsieur aussi, ceux qui ont émergé fort. L'inconvénient, c'est qu'ils ont quand même un name recognition qui est peut-être fort, mais les programmes, ils ne sont pas audibles. Voilà, ils ne sont pas audibles ou alors ils sont moins audibles. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Ah, peut-être que je ne suis pas le bon baromètre, mais je crois que si, quand même. Sinon, je ne parlerai pas ici. Et j'aime bien parfois fermer les yeux, être neutre et attendre que les sons m'arrivent. Et à ce moment-là, je me dis, ah tiens, tel candidat est audible. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur la scène, des acteurs... Vous savez, quand il y a un truc comme ça qui va se passer. Moi, je prends un peu cette élection. Franchement, ça m'était sorti de la tête. Et puis là, tac, je suis arrivé, j'ai trouvé. Oui, je prends comme ça sur le fil. Mais beaucoup se sont préparés pour qu'à ce moment-là, ils soient présents. Donc, vous avez beaucoup d'experts de ci, de ça, de commentateurs qui passent, d'observateurs de ci, qui ont créé des structures pour que le moment venu, ils soient présent pour faire les commentaires. Donc ça fait beaucoup, c'est la campagne aussi, il y a beaucoup de bruit autour des projets, des programmes des candidats, et que peut-être maintenant, j'espère qu'on aura moins d'intervenants, enfin, on aura plus qu'à même, comment dire ça, on aura une parole plus concentrée sur le candidat. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a les lieutenants plus concentrés sur le programme aussi. Mais le programme, j'ai envie de dire, quand on a écouté un peu tout le monde, même y compris ceux qui sont dans les quartiers, quand vous écoutez les gens, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Hein. La science politique consiste à mettre tout cela en réseau et en rapport. Et là-dessus, on a un hiatus qui est apparu entre ce que le peuple veut pour de vrai. Moi, j'ai la chance d'habiter un quartier populaire et donc j'entends des choses, je vois des choses, je vois comment les gens vivent. Il y a un décalage entre, par exemple, ce que le président de la République viendra faire valoir comme bilan en termes de grands projets qui sont réels, de grandes réalisations prévisionnelles, l'émergence 2030-2035. Oui, mais les gens ne sont pas tellement dans cette projection-là. Ils sont dans l'ici et maintenant. Ils sont dans la vie très, très, très difficile dans les quartiers. Et quand vous parlez des grands projets, oui, c'est bien, mais je crois que il y aura quelque chose à voir là au niveau de la participation, de la non-participation, au niveau des résultats, ce décalage entre le vote populaire, quand je dis populaire, des gens qui souffrent ici, qui souffrent sur vraiment sur le terrain. Je ne vais pas énumérer ici la liste des difficultés, et ceux qui voient un grand projet, une grande route et tout, qui sont plus ou moins déjà bien dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui va aussi traverser la campagne et le discours. Comment est-ce qu'on va rallier cela? Est-ce qu'on va se focaliser sur un tel segment de la population pour lui parler? Je ne sais pas, c'est peut-être à cela qu'a servi les déplacements sur le terrain, parler de la réalité, mais ça ne suffira pas parce que à la fin, c'est pour cela que je vous disais, c'est la question de la personnalité qui va décider à la fin, parce que tout le monde a le programme, tout le monde a les solutions, chacun les siennes, mais ceux qui tiennent la route, et après, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça sera la personnalité, la crédibilité, et peut-être quelqu'un a essayé de parler de l'ancienneté dans la vie politique. En temps normal, ben non, parce que là, maintenant, les gens sont plus ou moins désespérés. Ils sont même prêts à se jeter comme ça, corps et âme. Ils sont fâchés. Le peuple est fâché, le peuple est très en colère. Il se dit, oui, au bout de 36 ans, le compte n'est pas bon. La campagne ne fait que commencer. Là, ce sont des éléments que je vous donne vite fait. Il y a eu ces effets de tribalisme qui ont essayé de parasiter un peu le vote, mais on voit très bien que tout allait de façon croisée. Il y a des croisements vertigineux. Vous avez un parti en particulier qui s'appelle l'UPC, l'Union des populations camerounaises, qui était quand même celui du père fondateur de la nation Oumniobé. Et ce parti, il est dispersé entre le RDPC du président Biya, le Manidem, je crois, qui a rejoint, je ne sais plus, monsieur Akéré, et puis une partie des régions. Parce que voilà, il y a comme cela des sections qui peuvent dire, ah non, nous on va soutenir monsieur Kamto, par exemple. Et une partie qui soutient bien sûr monsieur Libi, qui est un Bassa. Parlant donc de ce tribalisme-là, à un moment donné, moi je me suis dit, il jouait pas, mais on voit très bien aussi que quand même, il joue dans une forme de psychologie aussi. Les réminiscences du travail, de sape, du tribalisme, parce que vous savez, l'Occident a tellement joué sur ses ressorts-là pour monter les Africains les uns les autres, font qu'il y a des rejets voilà, qui sont là, qui disent, ah non, moi ça, cette ethnie-là, je peux pas. C'est pas vraiment que ils sont tribalistes là, mais c'est qu'il y a une mémoire qui ne veut pas oublier, qui est là persistante et qui peut aussi jouer des tours. Il y a des gens qui ont juré qu'ils ne voteraient jamais pour telle ou telle ethnie. Ça, on ne va pas le nier. Ce facteur psychologique. Comment on le traite, c'est pas simple parce que je crois que les opposants eux-mêmes n'y croyaient pas au début lorsqu'ils venaient. Et puis l'engouement populaire les a portés. Et avec cet engouement populaire, on se rend compte qu'il aurait fallu travailler la question du tribalisme bien avant, bien en amont. Mais ce n'était pas non plus leur travail de faire cela parce que c'est la première fois quand même hein, que vraiment une élection se déroule de cette façon-ci. Et le tribalisme s'est accentué parce qu'il y a eu des injustices au niveau de la gouvernance où on privilégie les petits amis, les petits copains, le mérite ne joue pas, les concours dans les écoles sont fausses, comment je vais dire, fraudés, je sais pas quoi, je trouve pas le mot, suivant la même logique tribale. Et donc ça a laissé des blessures profondes, des effets où les gens sentent que la République est confisquée par un clan. Et si la République est confisquée par un clan, c'est pas bon. De l'autre côté, l'économie aussi, on se dit qu'elle est confisquée aussi par un clan. Donc ça va jouer ça, parce qu'il n'est pas possible que les gens oublient, les gens ont souffert de cela. Ça a handicapé l'État et la République, ça a handicapé parce qu'on, comme je disais tout à l'heure, l'excellence, ça joue plus. On recrute, c'est le petit copain, la petite copine, le cousin, le neveu, et pas forcément celui qui peut faire le job. Ça, c'est des facteurs qui vont jouer obligatoirement et qui jouent déjà. On ne sait pas, ça va peut-être comme le vote Front National. Voilà, tout le monde se déclare, ah non, mais moi, je suis pas tribaliste. Mais au fond. Ils le sont un tout petit peu quand même. Enfin, pas parce qu'ils ont quelque chose, voilà, ils ont la rage là quand même intérieure. Ils se disent c'est trop facile d'aller donner ma voix comme ça. Non, non, parce que moi j'oublie pas. Il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah, les facteurs psychologiques en termes électoraux, comment est-ce qu'on les résout? Là, il reste que 2 semaines, ce n'est plus possible. Hein. Ce n'est plus possible de se rattraper. Les candidats feront avec. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la couverture, les candidats et un meeting. C'est un rythme fou, hein. C'est un rythme fou qui imprime à la campagne. Les candidats sont sur le terrain, sur le terrain. Le président Biya, comme je disais, il n'est pas sorti encore. Il va peut-être sortir la dernière semaine. Attention quand même à l'effet Sarkozy qui avait attendu, attendu, attendu en méprisant Hollande. Et quand il arrive, bah, les autres sont déjà très, très loin. Et il n'a pas pu refaire son retard. Mais il faut dire, parce qu'on fait des reproches à certains en leur disant, ben oui, quand M. Biya était là, vous étiez où pour arriver maintenant et faire des grandes propositions, vous avez fait quoi? Et c'est cela qui a changé. Avant, vous ne pouviez pas contredire sans subir la foudre de la force, de la puissance du pouvoir. Mais ça, on a vu ça partout. Et maintenant, les temps ont changé, on peut contredire. On subira peut-être aussi les foudres, mais au moins, les gens ont développé voilà, une résilience et des réseaux parallèles qui permettent d'échapper aux foudres de la puissance publique pure et dure. Je suis sûr que j'oublie quelque chose que je voulais vous dire d'important, mais ce n'est pas grave. Voilà, les sondages faits qu'on commençait. Chacun y va de son mot. Je ne vais pas insister plus longtemps sur les sondages. On attend de voir. Et c'est très difficile la notion de sondage au Cameroun et en Afrique. Les gens, vous allez interroger qui? C'est très difficile. Le téléphone portable, oui. Vous croyez que vous allez appeler quelqu'un en disant, oh, vous allez voter pour qui? Il va vous répondre, attends, je vais voter pour un tel. Vous irez donc prendre le micro-trottoir, peut-être, et dire, je vais voter. Et puis les gens vont dire, ouais, mais moi, je vais peut-être voter. C'est très insaisissable. Le vote des gens en termes de science sondagère, mais pourquoi pas? On demande à voir. Après, il faut juste apprécier les effets parallèles tels que les alliances. Oui, c'est pas mal. Je ne sais pas si ce que ça va donner, la capacité comme ça des meetings, peut-être. Qu'est-ce qui va vraiment être l'indicateur, le baromètre parlant qui permettra de faire, de dire oui, un tel a l'avantage sur l'autre, ça va être difficile parce qu'il y a les villages aussi, les villages qui répondront au sondage. Personne. Oh non, le sondage, c'est même pas la peine de le faire. D'où qu'on le prenne, il ne peut pas marcher. Dans les conditions actuelles de développement de l'Afrique, c'est pas possible. Mais je veux bien être surprise, je laisse la question ouverte. Je vous dis, ce premier geste, c'était déjà pour vous faire comme ça l'état des lieux. À J-15, pratiquement, on vote ici le 7. Oui, il y a des problèmes d'insécurité. Il y a des écoles qui sont fermées dans le sud-ouest. On ne peut pas, vous voyez, depuis un certain temps, la menace des sécessionnistes là-bas, ce n'est pas rien. Ce qui pourrait aussi donner l'avantage au président en place parce qu'on a besoin en temps d'instabilité comme celle-ci. Et de risques de partition du pays et de chaos, de stabilité, de paix et de confiance en l'avenir. Et là-dessus, c'est vrai que le président Biya a, comment dirais-je, il a une partition à jouer qui est intéressante. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt.